buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. La semaine passée, les Européens ont enduré un épisode de canicule particulièrement éprouvant. Alors même s'il ne faut pas confondre météo et climat, difficile de ne pas voir dans ce dérèglement un des effets du réchauffement climatique dont la principale manifestation est la fonte des glaces au pôle. La montée du niveau des océans qui en découle place certains territoires en état d'urgence jusqu'en Europe même. Au nord de l'Allemagne, l'archipel des Halligen, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des territoires européens les plus menacés par la montée des eaux. Sur l'île Halligen, Nordstrandischmoor, Emma Roulin a rencontré Eric, 16 ans. Sa famille vit depuis 300 ans sur ce territoire, aujourd'hui menacé de disparition.
Ce matin, comme la plupart des habitants des îles Halligen, Eric s'est levé à l'aube pour partir au travail. Sa mission de la journée, rénover le remblai de la Lore, le petit train qui relie l'île de Nordstrandischmoor au continent. Depuis bientôt un an, l'adolescent suit une formation en apprentissage pour devenir fonctionnaire chargé de la protection de la côte, comme son grand frère Nomen et la plupart de ses voisins. Chaque jour, le travail demandé est répétitif et difficile. Mais pour l'adolescent, il est rempli de sens.
Ce que j'aime dans mon travail, c'est que je protège l'endroit où je vis. Comme c'est moi qui le fais, je suis certain qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose sur notre île. Tout ce que nous faisons au travail, c'est vraiment important pour l'île.
L'île d'Eric a besoin d'une attention particulière. Au nord de l'Allemagne, elle appartient à l'archipel des Halligen, un ensemble d'îlots dépourvus de digues protectrices. 15 à 50 fois par an, au moment des grandes marées, la mer s'empare de ces territoires, recouvrant les prés, les lignes de chemin de fer et les quelques routes. Ces inondations sont appelées des Landunter. Au fil des ans, pour se protéger des flots, les habitants ont construit leur maison sur de petites collines nommées Warft. Malgré ces aménagements, la vie sur l'archipel demeure une aventure, une bataille permanente contre la mer.
En été, la mer est une super alliée, on l'aime beaucoup, on a envie d'aller se baigner. Mais en hiver, quand on est bloqué à la maison ou sur le continent à cause d'un Landunter qui n'était pas prévu, on l'aime un peu moins. Dans ces cas-là, on commence à monter les engins agricoles et les animaux sur la Warft. Une fois que tout le monde est en sécurité, on peut continuer nos activités à l'intérieur de la maison. Tant qu'il y a du vent, l'eau ne se retire pas. On peut rester bloqué plusieurs jours. Ça arrive même souvent. Quand j'étais petit, j'aimais bien les Landunter parce qu'on n'allait pas à l'école.
Aujourd'hui, l'archipel des Halligen est l'un des territoires européens les plus menacés par le réchauffement climatique. Selon les scientifiques, le niveau de la mer pourrait monter de 1 à 2 mètres d'ici 2100, ce qui rendrait les Landunter dévastateurs. Le changement climatique expose aussi les 254 Halligiens à des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, capables d'anéantir leur habitation. De 1962 à 2007, un plan de 18 millions d'euros a été mis en place par la région pour surélever les 32 warfs des îles. Des pièces fortifiées en béton ont également été installées dans les maisons pour servir d'abri de secours en cas de tempête. Mais cela ne suffit pas. Un nouveau plan de 30 millions d'euros a été voté l'an dernier. Mais ces mesures tardent à voir le jour. La famille d'Eric est l'une des plus exposées.
Notre Warft mesure un mètre de moins que celle des autres habitations de l'île. Un mètre, ça peut tout changer en cas d'inondation. Nous aimerions construire une nouvelle maison sur une Warft plus haute, près de celle que l'on a actuellement. Le problème, c'est que ce projet met du temps à se mettre en place et demande beaucoup d'argent. Il faut faire venir du sable, de la main-d'œuvre et du matériel. Et pour faire venir des personnes ici, et c'est toute une histoire.
La famille d'Eric vit depuis 300 ans à Nordstrandischmoor. Au fil des siècles, ses ancêtres se sont transmis leur patrimoine et leur amour pour ces îlots flottants. Quatre générations cohabitent désormais dans la maison familiale. Frida, la grand-mère d'Eric, Ruth, sa mère, son grand frère Nomen, ainsi que sa femme et ses enfants. Face à la menace, les réactions divergent. Dans son salon qui offre une vue dégagée sur l'ensemble de l'île, Frida, 90 ans, l'assure. Elle n'envisage pas de quitter le navire.
Mon arrière-petit-fils, Leif, a seulement 10 semaines. Il est le plus jeune habitant de l'île. Moi, je suis la plus vieille. Je suis née ici comme mes ancêtres. Et jamais, au grand jamais, il n'a été question de quitter la Halig. Elle est notre foyer et au fond, elle est notre existence. Pourquoi irait-on autre part? C'est juste que nous sommes, eh bien, soudés à cette terre comme de vieux rochers. Et comment dire, profondément liés à la nature.
À 16 ans, Eric n'a pas le même regard que sa grand-mère. Son île, il l'aime, mais l'adolescent tente de relativiser.
J'aimerais continuer à travailler sur cette île. Et si un jour je devais déménager sur le continent, je continuerais à venir ici tous les jours, parce que c'est là où vit ma famille et où nous avons notre ferme. J'aurais de toute façon envie de continuer à les protéger. Après, si vraiment le niveau de la mer monte si haut que les îles Halligen disparaissent d'ici 50 à 100 ans, peut-être que c'est juste ce qui doit arriver.
Alors que les États-Unis viennent de décider de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, certains politiques allemands l'assurent. On ne peut pas garantir la vie sur les îles Halligen si l'on ne lutte pas efficacement contre le réchauffement climatique.
Reportage d'Emma Roulin, portrait d'Eric à retrouver sur notre webdoc l'europeetmoi.rfi.fr, réalisé avec le soutien du Parlement européen. Sur les étals des marchés et supermarchés, elles brillent par leur couleur rouge vif, plus rarement par leur goût. Il est devenu bien difficile aujourd'hui de trouver des tomates savoureuses, savoureuses comme certaines variétés qui bénéficient d'une dénomination d'origine protégée, une DOP. La tomate San Marzano, cultivée en Campanie près de Naples au pied du Vésuve, et de celle-là, une tomate oblongue cultivée pour être mise en conserve de luxe, mais qui doit batailler dur pour survivre. Le reportage de Frédéric Lebel dans une petite coopérative de Campanie.
Aux alentours de Sarno, on aperçoit le mont Vésuve, à ses pieds, des exploitations qui ressembleraient plutôt à de grands jardins. Lina, 69 ans, et Vincenzo, 73 ans, nous ouvrent la grille avec au bout du chemin un champ de tomates.
Avec ma femme, ça fait 50 ans qu'on cultive la tomate, mais dans ma famille, ça fait plus de 100 ans. La San Marzano a toujours fait partie de notre vie et aujourd'hui encore, on la consomme comme depuis des générations. C'est toute notre vie, celle de mon père et de mon grand-père.
C'est un immense mûrier qui fait de l'ombre près de la maison et de part et d'autre du champ, des canaux pour irriguer.
Ici, c'est la terre qui est extraordinaire. C'est elle qui nous donne la tomate San Marzano, les poivrons, les courgettes que vous avez vues. Notre trésor, c'est la terre. Comme disait mon grand-père, ce sont les cendres du Vésuve qui ont rendu cette terre argileuse très riche. Et puis, on a surtout l'eau. Si on gratte un peu la terre, on trouve l'humidité. On a trois affluents. Cette eau, on peut compter dessus.
Vincenzo n'a jamais pris sa retraite et qui sait s'il la prendra un jour. Dans le champ d'à côté, sous le soleil brûlant de la mi-journée, on croise Gaetano, 78 ans, et toujours la bêche à la main.
C'est très fatigant, très fatigant. Il y a trop de travail, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ici, tout se fait à la main, donc c'est très dur. On est tout le temps cassé en deux. Si les plants de tomates étaient plus hauts, ce serait une autre histoire. C'est sans arrêt un mouvement du bas vers le haut. Alors, ça casse le dos.
Ces deux nonnies, ces deux grands-pères, comme on les appelle ici, travaillent pour la coopérative Danicop. À sa tête, la famille Ruggiero. Paolo représente la quatrième génération. Un responsable commercial passionné qui a tatoué sur son bras droit une tomate San Marzano et une botte italienne.
Ici, tout ce qui se fait, c'est petit, mais c'est bon. Comme je dis toujours, il n'y a que ça qui marche. Quand il y en a peu, c'est que c'est bon.
Mais pour continuer à récolter cette tomate à la main, il va falloir faire évoluer la tradition et assurer la relève des anciens, explique Paolo.
Dans les années 90, il y a eu beaucoup d'émigration ici. Tous ceux qui travaillaient dans les champs sont partis vers le nord parce que les terres ne produisaient pas assez. On disait même que la San Marzano allait disparaître. Il n'y avait plus que les personnes âgées, ces anciens, ces nonni qui sont restés travailler. Mais depuis quelques années, on essaie d'aller sensibiliser les jeunes dans les écoles pour qu'ils reviennent travailler dans l'agriculture.
Pomodoro San Marzano Day. Il pomodoro San Marzano Day è una manifestazione voluta dalla cooperativa agricola Danicop.
Communiquer autour de la petite tomate oblongue pour ne pas mourir, chaque 31 juillet, premier jour de la récolte, Danicop organise désormais la fête de la San Marzano. Au siège de la société, qui fait aussi épicerie et primeur, Eduardo Ruggiero, le père de Paolo, nous explique que la coopérative a renoncé il y a 9 ans à faire appel aux conserveries locales pour contrôler toute la production. Ces boîtes de conserve protégées par la dénomination européenne DOP ne sont pas vraiment comme les autres.
Là, on a une étiquette standard de la tomate San Marzano. Sur ces conserves, il y a un numéro de série. On peut lire Pomodoro San Marzano Dell'Agro San Mezze Nocellino. Donc, la zone de production et avec les deux symboles, celui du consortium San Marzano et la DOP, la dénomination d'origine protégée. Donc, chaque boîte a son numéro. Ici, on a la conserve numéro 28954.
À l'autre bout de la chaîne et à une heure de route, la pizzeria Specchi d'Autore au centre de Naples. Mimmo Esposito, 27 ans, sélectionne avec un soin tout particulier sa farine, son basilic, son fiordi latte et bien sûr ses boîtes de tomates San Marzano.
Si on ouvre une autre boîte de conserve qui n'est pas de la San Marzano, à l'intérieur, le couvercle aura une autre couleur. Ce sera pas le même rouge. Et là, après avoir ouvert, on sent qu'il n'y a pas d'acidité. Alors que dans les autres boîtes, c'est ça qui te monte tout de suite au nez, l'acidité.
La tomate pelée, naturellement sucrée, s'écrase à la main pour ne pas abîmer le fruit, nous explique Mimmo. Surtout, ne pas ajouter de sel. C'est aussi à cela qu'on reconnaît l'excellence.
Le reportage de Frédéric Lebel. Demain, second volet de cette enquête réalisée avec le soutien de la Commission européenne. Nous verrons que les producteurs de San Marzano doivent relever un sérieux défi, celui de la contrefaçon.
Filetti di San Marzano, Cirio.
Senti, filetti,
senti, senti, che freschezza,
senti, senti, che sapore, questa grande novità.
Si en Campanie, les producteurs chérissent leur San Marzano, d'autres producteurs mondiaux cherchent avant tout à tirer profit de cet or rouge. L'Empire de l'or rouge, c'est le titre du livre Enquête que vient de publier Jean-Baptiste Mallet. Pendant plus de 2 ans, ce journaliste a enquêté sur le marché mondial de la tomate, un immense marché qui n'a rien à envier à celui de la confection et de l'automobile. Dans cette course au meilleur prix, au détriment de la qualité, on trouve un producteur très actif, la Chine, qui inonde le monde entier de son concentré de tomates, bouleversant les schémas traditionnels de production. Des fruits récoltés dans des conditions effrayantes, a d'abord expliqué Jean-Baptiste Mallet à Frédéric Lebel.
Le Xinjiang a été colonisé par la Chine en 1949 et depuis c'est l'armée chinoise qui organise et contrôle des pans entiers de l'économie locale et notamment l'agriculture. Au Xinjiang on trouve un peuple, le peuple Ouïghour, et également de nombreux goulags, en fait les Laoga et les goulags chinois. Et donc ces familles Ouïghours et ces prisonniers des goulags chinois travaillent dans l'agriculture locale et donc cueillent et ramassent des tomates. Sur place, moi lorsque je me suis rendu dans un
un champ du Xinjiang pour assister à une récolte manuelle. J'ai vu des enfants travailler dans les champs. Alors quand ils ont 6-7 ans, ils aident leurs parents. Et puis dès qu'ils ont 12-13-14 ans, ils sont autonomes et ils travaillent seuls. Tout le monde est payé 1 centime d'euro le kilo de tomates ramassées. Mais il faut préciser que ces tomates ne sont pas consommées en Chine. Elles partent à l'exportation une fois transformées. Et donc là, ce sont des grands groupes, Kofco ou Shelkis, le numéro 1 et le numéro 2 chinois, qui vendent aux grandes multinationales occidentales, Heinz, Nestlé, Unilever, des barils de concentré de tomates qui vont être transformés ensuite en Europe ou en Afrique.
Oui, parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est seulement en quelques décennies, la Chine est devenue leader mondial sur le marché du concentré. Elle exporte en Afrique, mais aussi, plus incroyablement, en Italie.
Oui, alors au début, ça m'a beaucoup surpris. Quand j'ai regardé les statistiques douanières, je me suis aperçu que l'Italie importait énormément de concentrés chinois. En réalité, c'est très logique. Cette logique, il m'a fallu 2 ans pour le comprendre, 2 ans d'enquête. J'ai découvert que les Italiens sont allés jouer au Marco Polo en Chine. Ils ont construit des dizaines et des dizaines d'usines. Ils s'en sont mis plein les poches en vendant leurs machines-outils. Et à la fin, ils ont réceptionné des quantités phénoménales de concentrés chinois qu'ils ont écoulés en Afrique et en Europe. Et ils continuent de le faire.
Avec un produit estampillé Made in Italy, et ça grâce aux failles béantes de la législation européenne.
Oui, la législation européenne aujourd'hui permet à, par exemple, Heinz, le numéro 1 mondial du ketchup, de faire voyager du concentré chinois jusque dans ses méga fabriques, de le transformer en ketchup et de le vendre sans indiquer la provenance des tomates. Alors ça permet aux conserveries d'optimiser leur compétitivité et de réaliser des méga profits, mais ça pose quand même un problème de moralité, hein, parce que on vend du coup aux consommateurs de la planète entière des produits qui n'ont absolument rien d'italien.
Alors, l'autre très grand marché d'exportation pour les Chinois, c'est l'Afrique. Et alors là, ça fait froid dans le dos. On y exporte ce qu'il y a de pire sur le marché, ce que vous appelez le black ink, une espèce de purée noire.
C'est triste, c'est lamentable, mais les conserveries chinoises et les industriels de la tomate chinois aujourd'hui ont tendance à prendre l'Afrique pour leur poubelle. Et donc, comme il y a de la spéculation dans ce business, on spécule sur les barils d'or rouge, sur les barils de concentré. Il y a des stocks excédentaires, il y a des prix qui varient. Et lorsque ces barils commencent à vieillir, au bout d'un an et demi, 2 ans, comme c'est une denrée alimentaire, le concentré commence à s'assombrir, à devenir plus noir. Et là, quand le produit est périmé ou incomestible, eh bien les industriels chinois le coupent avec de l'amidon, de la fibre de soja et le recolorent en rouge pour pouvoir l'écouler en Afrique. Et ça, c'est boîte frelatée, je crois, commence à poser des problèmes de santé publique en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, et ça risque de s'empirer si les politiques africains ne réagissent pas rapidement.
Et puis l'arrivée des produits chinois en Afrique a complètement cassé en fait l'agriculture locale. Il y avait des grands pays producteurs de tomates qui ne le sont plus, parce qu'ils sont plus assez performants, et tous ces cueilleurs, tous ces ouvriers agricoles émigrent en Italie pour aller eux-mêmes ramasser les tomates en Italie.
Oui,
on marche sur la tête.
C'est le cas du Ghana. Au lendemain de l'indépendance, le Ghana s'est équipé de 2 usines de transformation de tomates et donc longtemps les Ghanéens ont pu manger du concentré de tomates ghanéen. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque après les différents coups d'État au Ghana, ce pays est devenu un modèle du néolibéralisme et donc aujourd'hui il y a beaucoup d'importations de denrées agricoles qui ont fragilisé l'agriculture ghanéenne. Et donc, moi, j'ai rencontré effectivement en Italie des Ghanéens qui désormais cueillent des tomates en Italie, encadrés par la mafia, alors que beaucoup préféreraient le faire sur un lopin de terre dans leur pays. Donc, c'est la criminalité organisée qui propose aux migrants du travail, bien évidemment pas déclaré.
Et l'agromafia.
Donc, on appelle ça effectivement en Italie l'agromafia. Alors, l'agromafia, ça englobe toutes les activités criminelles dans l'agroalimentaire italien. C'est un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros par an pour l'Italie. Ça touche la tomate, ça touche l'huile d'olive, ça touche la mozzarella, ça touche la charcuterie. Et là, on assiste à plusieurs dérives. Alors, c'est soit du faux étiquetage de tomates sans marzano, faux étiquetage bio. Ça peut toucher l'exploitation des travailleurs, ça peut toucher des triches, des fraudes sur la qualité du produit, ou alors des industriels qui ont des pratiques normales mais qui utilisent leur activité pour blanchir de l'argent.
Jean-Baptiste Mallet, auteur de L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie, aux éditions Fayard. Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. À demain, 17h40 TU.